culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Isabelle et Dominique, bonjour à vous.
Bonjour.
C'est une œuvre majeure de l'art roman en Anjou. L'abbaye du Ronceret, située dans la Doutre à Angers, vient d'être rénovée et se transforme en nouveau lieu culturel. Nous avons aujourd'hui invité Stéphanie Vitargibia, directrice du repère urbain et responsable du service Angers Patrimoine. Et nous découvrons avec elle les transformations et projets culturels de l'abbatiale, ainsi que l'exposition du repère urbain intitulée « Mémoire de femmes, mémoire de pierre », et bien oui, parce que c'était une abbaye de femmes, qui retrace l'histoire et l'architecture de ce lieu millénaire. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche culture, la curiosité sous toutes ses coutures.
Et voilà, mémoire de femme, donc Isabelle, à vous l'honneur.
3 années d'études, 12 mois de travaux de restauration, 300 mètres carrés de surface rénovée, 1 400 000 euros dépensés, l'abbaye du Ronceret se réinvente à l'aube de son millénaire et devient un lieu majeur d'accueil des événements culturels. Stéphanie Vitargibia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service Angers Patrimoine. Alors, l'abbaye du Ronceret a fait l'objet d'une grande restauration permettant l'ouverture au public. Qu'est-ce qui a motivé la ville d'Angers pour entamer un tel chantier ?
Eh bien, nous sommes devant une abbaye absolument exceptionnelle et c'était une volonté municipale de rouvrir cette abbaye qui est très peu connue des Angevins et encore plus des visiteurs puisque c'est un joyau de l'art roman et il s'agissait de procéder à des travaux permettant la réouverture au public, la redécouverte pour les Angevins.
Alors Stéphanie Vitargibia, est-ce que nous pourrions parler d'abord de l'intérieur de l'abbaye ? La lumière pénètre enfin dans l'abbatiale. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancienne mouture ?
Alors, cette abbaye était fermée depuis plusieurs années. Il y avait eu précédemment quelques travaux assez précaires d'ouverture et puis les conditions n'étaient plus réunies pour la présenter au public. Et donc, nous avons lancé plusieurs diagnostics patrimoniaux avant d'engager des travaux ambitieux et conséquents. Et à l'intérieur, déjà, lorsque nous pénétrons à l'intérieur de l'église abbatiale, ce qui nous frappe, c'est effectivement la lumière, puisque nous avons commencé par désocculter toutes les baies, puisqu'elles étaient recouvertes pour présenter des expositions exclusivement dans le noir. Donc ça, c'est une transformation majeure.
C'est ce qu'on avait remarqué. On aimerait aussi avoir un mot, s'il vous plaît, sur les équipements d'accueil donc, du public hein, qui ont été modifiés.
Alors, on a modifié plusieurs choses au niveau de l'accueil du public. Tout d'abord, l'entrée. Jusqu'à présent, les précédentes expositions et événements qui avaient eu lieu de manière ponctuelle, l'entrée se faisait par une porte qui donnait sur la place de la Laiterie, mais une porte secondaire, assez peu lisible, et qui ne faisait pas partie des portes usuelles de cette église abbatiale. Là, la réflexion qui a été conduite avec le cabinet architrave et l'architecte François Janot a été de réutiliser une porte monumentale, une porte du 18e, qui donne elle aussi place de la laiterie, mais qui avait un usage, notamment lors des grandes processions de la fête du Grand Sacre à Angers. Et donc ça a été de restaurer cette porte monumentale comme un marqueur sur la place et d'aménager donc cette entrée pour les visiteurs avec cette fois-ci une véritable banque d'accueil, billetterie pour les accueillir.
Alors, ce qui frappe le plus quand on entre dans l'abbaye, c'est le nettoyage des voûtes. Ça vous a pris, ça prend beaucoup de temps, ça a été compliqué.
Le nettoyage des voûtes. Écoutez, en fait, on est intervenu sur les voûtes particulièrement par les éclairages, justement, qu'ils soient naturels ou par une scénographie de lumière. Et justement, pour mettre en valeur cette voûte remarquable et complètement audacieuse, car c'est le premier édifice qui a été voûté en Anjou par une voûte en berceau longitudinal qui est tout à fait impressionnante.
Ah, qu'est-ce que c'est qu'une voûte en berceau longitudinal ?
Eh bien, ça fait comme un vaisseau de bateau inversé.
C'est un tunnel.
Exactement.
C'est rond.
Oui.
C'est complètement arrondi, on dit cintré, et c'est rythmé par des arcs qu'on appelle les arcs doubleaux, et qui arborent un décor peint tout à fait intéressant, voire exceptionnel, qui date du XIIIe siècle, sur lesquels on peut voir les armoiries de Blanche de Castille, par exemple, ou des motifs décoratifs géométriques.
Mais ces peintures ont été rénovées, restaurées, nettoyées à l'occasion de ce projet ?
Alors, dans ce projet, la partie des peintures murales ne faisait pas partie de cette tranche de travaux. Ce sera pour un futur, puisque la priorité a été vraiment de réouvrir cette abbaye au public, donc de restaurer pour les parties historiques et monuments historiques les extérieurs, les portails, et de réaménager l'intérieur pour apporter confort aux visiteurs. En revanche, comme nous avons réouvert les baies, et fait un travail avec un scénographe lumière, on a mis en valeur des choses qui n'étaient plus du tout vues oui. par le public, puisque le public voyait ce lieu comme un écrin d'exposition, mais pas comme à lui seul un joyau d'architecture de l'art roman.
C'est exactement ce qui a transformé cette abbaye. Mais on peut avoir un regret quand même, Stéphanie Vitargibia, c'est qu'on ne voit pas assez le cœur, et puis surtout, pourquoi est-ce que vous avez bloqué l'accessibilité du public au transept nord qui est resté dans son jus ?
Alors, il y a eu des choix à faire, hein, puisque le lieu est contraint. Nous sommes sur un lieu qui avait beaucoup de désordre en termes de structure de bâtiment. Et qu'il y avait un choix aussi budgétaire selon les travaux. Comme on a aménagé l'entrée par cette porte sud qui donne sur la place de la Laiterie, il fallait qu'on facilite les circulations pour aller dans le vaisseau principal et ce qu'on appelle le collatéral au sud, et que pour le moment, le chœur n'était pas en état. Il faut savoir que le chœur s'est effondré entre 1813 et 1830, donc au cours du XIXe siècle, quand il y a eu des ventes post-révolutionnaire, de bois, de pierre. Et c'est à ce moment-là que le clocher s'est effondré en portant voûte du croisillon, plus la coupole et ensuite le chœur. Donc le chœur, il a été mis hors d'eau et hors d'air au début des années 2000 et de manière, on va dire, semi-provisoire et sur lequel il faut vraiment qu'on travaille sur un projet. Et pour le moment, c'était pas la priorité pour cette tranche de travaux.
Donc c'est à l'étude ?
C'est pas pour le moment, mais dans un avenir, j'imagine.
Vous espérez.
Parlez-nous un peu des aménagements qui permettent donc d'accueillir le public dans des meilleures conditions, c'est-à-dire cette banque d'accueil. Et puis, je crois qu'il y a aussi des équipements sanitaires qui ont été intégrés au projet et qui font partie voilà, de ce qu'on doit réaliser pour accueillir sereinement tous les visiteurs.
Tout à fait. Alors effectivement, jusqu'alors, ce lieu était ouvert sans aucun confort, ni pour les visiteurs, ni même pour les agents qui pouvaient accueillir le public. Donc, comme vous l'avez expérimenté, quand nous rentrons par cette porte au sud, cette porte monumentale, vous êtes accueillis par une rampe avec un degré de 6% qui permet donc aux personnes à mobilité réduite de pouvoir intégrer et visiter le lieu. Et d'ailleurs, le choix du cabinet architrave de François Janot et de Nicolas Braguet, qui ont conçu ces aménagements, ont été de faire un choix aussi d'un parti pris architectural de construire tous les nouveaux aménagements en bois, en chêne, pour que ce soit à la fois élégant, mais qu'on puisse aussi voir les aménagements nouveaux qui ont été apportés. Donc tout ce vocabulaire d'aménagement, donc la rampe, les garde-corps, on a une petite folie ou petite pièce d'architecture qui est donc l'accueil billetterie, qui a été conçue également dans ses propres matériaux pour accueillir deux personnes et accueillir le public. Et ensuite, nous conduisons donc par cette rampe qui nous permet de rétablir les mêmes niveaux dans l'édifice, au collatéral, à la fin duquel il y a effectivement des sanitaires qui étaient inexistants jusqu'alors. Et ensuite, nous pouvons aller sur le même niveau également dans la nef, dans le vaisseau principal de l'église abbatiale du Ronceret.
Alors, on a parlé de l'aménagement intérieur. Maintenant, assez rapidement, sur le plan de l'aménagement extérieur, qu'est-ce qu'on pourrait à annoncer aux auditeurs, de quoi, quels sont les événements majeurs, quels sont les éléments majeurs à mettre en avant?
Alors, en fait, c'est, alors déjà, cette abbaye, cette église, est classée depuis 1840. Elle est sur la première liste des monuments historiques de Prosper Mérimée. Donc, pour vous dire que quand il a fait son parcours en France et qu'elle a fait ce choix, celle-ci l'a frappée d'émotion et s'est dit qu'elle méritait vraiment toutes les attentions. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que les monuments sont rares d'être classés sur cette première liste. Et notamment pour ces portails, des parties, donc les voûtes dont j'ai déjà parlé, mais aussi ces portails. Donc, comme j'ai pu tout à l'heure l'introduire, donc l'entrée principale se fera par le grand portail 18e, qui a été entièrement restauré en pierre de taille, avec un gros travail de sculpture et de modénature, avec des lignes de refend. Nous avons également restitué sur ce portail, mais ça, vous le verrez lorsque vous vous présenterez place de la laiterie, en partie supérieure des pots à faux, qui sont des motifs décoratifs qui avaient complètement disparu, puisque nous avons la chance d'avoir une pierre magnifique, blonde, lumineuse, qui se taille admirablement bien, la pierre de Dufour, mais qui aussi est assez fragile et qui nécessite un entretien régulier. Donc ce portail a été entièrement restauré et certaines parties ont été restituées, mais attention, restituées d'après documentation, puisqu'il y a eu un gros travail documentaire, documents anciens que vous avez pu voir d'ailleurs dans l'exposition du repère urbain, c'était présenté, mais aussi photographique. Et puis, quand on continue, donc place de la laiterie, qu'on remonte passage de la Censerie et rue de la Censerie, les deux portails ont également été restaurés, le portail du XVIIe siècle et le portail XIXe, ainsi que le mur de clôture qui ceint la cour occidentale de l'église abbatiale. Alors pareil, un très beau travail de taille de pierre avec un très beau couronnement, fronton et niche supérieure.
Oui, Stéphanie Vitargibia, on n'abandonne pas du tout l'abbatiale. On y revient après, mais pour l'instant, on fait une petite pause musicale avec Feist et la chanson My Moon, My Name, My Man. Et on vous retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours dans Franche Culture sur les bonnes ondes de Radio Campus. Notre sujet aujourd'hui, l'abbaye du Ronceret avec Stéphanie Vitargibia, responsable du service Angers Patrimoine. On continue avec vous, Dominique, et un peu d'histoire et d'architecture.
Eh bien, après la visite du chantier de restauration, on vous propose virtuellement, bien sûr, de vous rendre au repère urbain. C'est au milieu du Jardin des Beaux-Arts, c'est le site municipal d'interprétation du patrimoine, parce que vous y présentez une exposition intitulée « Mémoire de femmes, mémoire de pierre ». Vous mettez notamment en avant que le Ronceret, c'est la première communauté de femmes à Angers, alors que la ville comptait déjà une demi-douzaine de congrégations très puissantes. Alors, qui étaient ces femmes qui dirigeaient l'abbaye ?
Alors, avant de parler des femmes qui dirigeaient l'abbaye, on peut peut-être parler de la fondatrice, Hildegarde, oui. La comtesse d'Anjou, la bien femme sûr. De Fulkenera, connue pour avoir fondé quelques années plus tôt l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, également sur la rive droite. Donc, effectivement, des cinq abbayes angevines, l'abbaye qui s'appelait à l'origine Notre-Dame de la Charité, est une abbaye fondée pour accueillir des moniales, des bénédictines. Donc, ces femmes bénédictines étaient issues de l'aristocratie. Et,
très haute aristocratie.
Alors, voilà, l'aristocratie, très haute aristocratie, qui leur donnait quelques privilèges. Bon, elles donnaient leur dot déjà à l'établissement, mais elles n'étaient pas complètement cloîtrées, comme d'autres, dans l'ordre bénédictin classique. Elles pouvaient, par exemple, assister à des messes à la cathédrale. Elles étaient souvent sœurs d'évêques, ou d'abbés, nièces d'anciennes abbesses ou moniales. C'était des grandes familles.
Elles avaient une vie sociale ?
Alors, je ne sais pas si on pourrait dire une vie sociale comme nous la concevons aujourd'hui. Certainement pas. Mais elles pouvaient recevoir du monde. Elles pouvaient avoir des visites, par exemple. Et comme je vous l'ai indiqué, elles pouvaient sortir pour certaines occasions. Je ne pense pas qu'elles devaient en abuser. Et puis, la vie sociale devait être très, très différente de la nôtre.
Ce qui frappe quand même, c'est que elles étaient très peu nombreuses. Vous nous apprenez qu'elles étaient entre 22 et 43.
Oui.
Alors qu'on connaît le volume de cet établissement, on se dit qu'elles étaient très richement installées.
Alors oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui. C'est l'organisation d'un monastère. Puisque dans un monastère, il n'y a pas que les moniales. Alors, elles étaient, selon les époques, c'est ça, entre 22 et une quarantaine. Il y a des novices, il y a aussi des personnes qui sont là pour s'occuper des convers. Il y a des convers, il y a tout un certain nombre de personnes qui sont là aussi pour les services.
Et qui vivaient dans l'abbaye.
Et qui pouvaient vivre dans l'abbaye. Et puis, il y a des pièces aussi qui ont des fonctions particulières, donc il y a besoin beaucoup d'espace. C'est des femmes aussi qui avaient beaucoup de propriétés foncières. Il y avait 7 prieurés qui dépendaient de l'abbaye. Elles avaient de la gestion à faire également. Et elles étaient propriétaires d'une grande partie de la rive droite d'Angers, jusqu'aux limites d'Avrillé actuelle. Propriétaires également de l'espace où se situe aujourd'hui l'hôpital Saint-Jean. Propriétaires du grand pont aussi, des revenus de moulins, etc. Donc vous voyez, c'était une sorte aussi d'entreprise, en plus d'être ce monastère dédié à la dévotion. Et voilà.
Donc un travail d'administration extrêmement important. Est-ce que ça laissait un peu de place aussi pour le service religieux ?
Alors tout à fait, c'était la priorité. Hein. Voilà, donc la dévotion, la prière. Elles avaient aussi des travaux de broderie. Et le vocable primitif qui est Notre-Dame de la Charité, c'est parce qu'elles avaient aussi beaucoup d'activités charitables. Elles étaient connues pour fabriquer des petits pains qu'elles distribuaient dans le quartier, etc. Donc c'était quelque chose d'extrêmement présent, bien évidemment, dans leur quotidien.
Alors, on dit aussi qu'elles avaient un lien particulier avec l'hôpital Saint-Jean dont elles s'occupaient. Est-ce que c'est pour des raisons administratives ou est-ce qu'elles apportaient des soins aussi aux malades accueillis à l'hôpital ?
Alors, la première relation, c'était une relation foncière, puisque l'hôpital Saint-Jean s'est installé au XIIe siècle. On ne l'a pas précisé encore, hein, mais la fondation de Notre-Dame de la Charité, appelée aujourd'hui l'abbaye du Ronceret, est très ancienne, elle date de 1028. On fêtera très bientôt d'ailleurs le millénaire. L'hôpital Saint-Jean a été fondé au XIIe siècle sur des terrains qui appartenaient à l'abbesse. Donc elles étaient un peu seigneurs de cet espace. Donc c'était d'abord ce rapport-là. Mais nous, elles n'ont pas été personnelles soignantes dans l'établissement.
D'accord. On dit effectivement qu'elle n'était pas cloîtrée au sens traditionnel d'une abbaye bénédictine. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on retrouve de traces d'enclos.
Alors, il y a un enclos architectural.
C'est ça, les bâtiments servent d'enclos.
Voilà.
Il n'y a pas de grands murs, comme on le voit assez souvent, certes en milieu rural, plus qu'en milieu urbain.
Oui, mais alors c'est vrai que c'est une abbaye urbaine.
On sent une grande transparence entre la vie du quartier et la vie de l'abbaye, non ?
Eh bien, écoutez, je n'en suis pas si sûre, parce que quand on parle aux Angevins de l'abbaye du Ronceret, beaucoup n'arrivent pas à l'identifier, à la repérer dans l'espace urbain.
Oui, ça c'est parce que elle n'était pas jusqu'à aujourd'hui aussi vivante que vous allez la rendre dans les mois prochains.
Alors, ça reste un enclos religieux, ça reste un monastère qui est saint de murs. D'ailleurs, elle n'est pas beaucoup tournée vers la ville, si ce n'est par ce grand portail 18e et cette cour occidentale, bien que, comme vous l'avez précisé, les bénédictines n'étaient pas cloîtrées au sens que nous connaissons dans d'autres monastères bénédictins. Mais c'est une abbaye urbaine, ça vous avez tout à fait raison, donc c'est quelque chose de très différent si on compare avec Fontevraud par exemple, et d'ailleurs qui a joué un rôle tout à fait moteur et dynamique, puisque c'est à la suite de cette fondation sur la rive droite que s'est constitué le quartier de la Doute tout autour. C'est là qu'ont été attirés des habitants, des commerçants et toute une activité autour dans le quartier.
Oui, parce qu'au départ, c'est une abbaye à la campagne, et la ville, les habitants viennent après la création de l'abbaye autour.
Alors,
j'ai bien compris.
On ne peut pas complètement dire que c'était à la campagne, mais on n'était pas dans le centre vraiment intramuros d'Angers, mais ce n'était pas très loti, on n'était pas sur un urbanisme développé. Il y avait déjà un oratoire préexistant à cet emplacement-là, donc il y avait déjà une activité à Angers. Qui se situe déjà sur le long d'axes très anciens, romains, qui étaient connus. Mais on n'avait pas véritablement un quartier comme on le considère aujourd'hui, constitué à cet emplacement-là. Il s'est réalisé et créé vraiment après l'établissement de ce monastère.
Un peu d'architecture aussi, parce que c'est la seule abbaye qui ait conservé son église d'origine. Elle est construite au milieu du XIe siècle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle présente toutes les caractéristiques de l'art roman. C'est une nef et des bas-côtés couverts par des voûtes en berceau, soutenues par des arcs. C'est surtout, comme on l'a dit aussi, son décor sculpté, ses peintures qui font l'intérêt d'édifice, dont on a commencé le dégagement avec leur badigeon dans les années 1960. Il y a une autre particularité du Ronceret, c'est que l'abbatiale a servi à l'origine d'église paroissiale pour ce nouveau quartier de la Doutre, avant la construction de l'église de la Trinité. C'est ce qui explique la juxtaposition de ces deux églises, qui est un phénomène assez rare. Elles viennent là s'emboîter quasiment l'une dans l'autre. On ne peut pas passer sous silence les bâtiments abbatiaux qui, eux, ont été construits à partir du XVIIe siècle. En même temps que l'entrée ouest de la rue de la Censerie, ces bâtiments qui sont aujourd'hui occupés par l'école des arts et métiers. On va donc bientôt fêter le millénaire de cette fondation. Est-ce que déjà des manifestations sont prévues pour remettre à l'honneur cet ensemble ?
Alors évidemment, nous y réfléchissons. Aussi, ce que nous souhaitons là, c'est très surprenant. C'est une abbaye qui va bientôt être millénaire, qui est, comme vous l'avez très justement dit, la dernière qui subsiste de l'art roman. Elle est tout à fait incroyable et remarquable, et ça, on le sait tous. Et pourtant, nous ne la connaissons pas assez bien. Il y a peu d'historiens. Il y a eu Jacques Mallet, qui était un spécialiste de l'art roman, qui s'est penché sur cet édifice. Mais nous avons assez peu d'éléments historiques, et il y a un comité scientifique qui s'est créé avec des universitaires de l'Université catholique, de l'Université d'Angers, des historiens, archéologues, pour justement la réétudier et justement mettre à jour un peu nos connaissances, car nous en avons besoin de compléter nos connaissances pour la ville et pour mieux la connaître et la partager auprès du public. Donc ce sera peut-être déjà une des premières choses pour le millénaire, de raconter son histoire et de mettre à jour nos connaissances, bien sûr en comparaison avec d'autres édifices connus. Et puis je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'importance de l'église de la Trinité, qui est aussi une église incroyable et très remarquable à Angers, absolument magnifique, qui est effectivement la création démoniale, puisque il n'y avait que trois travées qui étaient dédiées aux paroissiens, aux visiteurs, et devant leur succès, mais aussi le développement du quartier, il a été nécessaire, dès le XIIe siècle, de construire une église paroissiale. Et devant la topographie des lieux, l'église, elle s'est accolée à l'église abbatiale.
On sait que les abbesses ont toujours voulu embellir leur église. Elles avaient les moyens financiers pour le faire, mais elles l'ont parfaitement bien utilisé. Il y a une chose qui est très intrigante, c'est le déplacement de l'autel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il y a eu un autel dans le chœur, et puis il y a eu un autel qu'on a avancé. Quelle est un peu l'histoire de tous ces déménagements, réaménagements ?
Alors, une des particularités de cet édifice, c'est comme vous l'avez dit, il a été embelli, réaménagé selon les abbesses, qui mettaient toujours un point d'honneur à moderniser l'établissement et d'avoir les meilleurs savoir-faire et meilleurs décorateurs. L'hôtel, ou ce qu'il en reste, parce qu'il est vraiment très incomplet, il est présent dans la partie, on va dire, la plus orientale de la nef, mais ce n'était pas du tout sa place initiale. En fait, il a été déplacé au 19e siècle, lorsque, après l'effondrement de toute la partie orientale, il a fallu isoler par une grande verrière, faire une cloison, entre les parties subsistantes de la nef et les parties ruinées du chœur. Et c'est à ce moment-là que cet hôtel a été déplacé dans son emplacement actuel. Mais il est très incomplet puisqu'il manque la table d'hôtel, le bas-relief et entre autres.
Une dernière petite question concernant l'histoire de cet édifice. Les tribunes sur les deux bas-côtés ont été construites assez tardivement. Est-ce qu'on connaît le rôle et la fonction qu'on a voulu donner à l'origine de la construction de ces tribunes ?
Alors, ces tribunes ont été construites en 1650, en fait. À un moment donné où, vous savez, on est aussi dans la période de la réforme catholique, ou qu'on appelle aussi la contre-réforme. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette porte qui pouvait servir pour la procession du Grand Sacre à Angers. Donc, le Grand Sacre cette procession partait de la cathédrale. Son point d'aboutissement était la place du Tertre avec ce reposoir aujourd'hui néo-gothique qui se trouve à cet endroit. Et ce cortège passait donc par ce portail, déposait le Saint-Sacrement. Il y avait une messe, un office dans l'église de la Trinité, puis traversait la nef et sortait par la cour occidentale vers la place du Tertre. Mais il y avait un mélange entre les riverains, l'évêque, et puis tout le cortège des métiers, des artisans. Et à un moment donné, l'évêque trouvait quand même mal à propos que les moniales soient en confrontation avec la population. Et donc, elles ont fait construire ces tribunes hautes au-dessus des collatéraux, divisant l'espace, pour justement pouvoir assister notamment à cette procession.
Chacun son niveau.
Exactement, chacun son espace. Oui. D'ailleurs, c'était des espaces qui étaient très décorés et meublés, ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
Oui, oui.
Alors, après le départ des religieuses en 1792, l'abbaye est reprise par l'armée, puis par l'État pour accueillir l'école des arts et métiers. L'église est acquise par la ville d'Angers en 1998 et c'est le début d'une quatrième vie pour le monument. L'abbaye va devenir un lieu culturel dédié à l'art, à la musique et au patrimoine. Stéphanie Vitard-Gibien, avec quel événement la saison va-t-elle démarrer ?
Alors, on a fait quelques petites visites préalables à l'ouverture pour parler un petit peu du chantier de restauration. Et au mois de mai, on va accueillir le festival de piano, Pianopolis. Voilà, avec un concert le samedi et le dimanche matin. Donc on va commencer ainsi. Ensuite, on va faire des portes ouvertes pour que les Angevins et les visiteurs puissent découvrir librement le site avant de pouvoir installer une exposition d'art visuel pour l'été.
Alors justement, une exposition du peintre Claude Viala est programmée pour fin juin 2026. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ?
Alors, Claude Viala est un artiste majeur de l'histoire de l'art, un artiste actuel, qui a fêté cette année ses 80 ans. C'est un artiste du mouvement, c'est le créateur et l'initiateur du mouvement Support Surface, et qui investit de très grands formats.
Alors, Support Surface, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un mouvement qui est né dans les années 70, d'expression libre, de motifs qui se répètent, sur un motif de fond et de forme avec des couleurs, en s'affranchissant du cadre traditionnel d'un tableau, d'un châssis. Il récupère des draps, des vêtements qui ont une seconde main, on va dire aujourd'hui, pour les investir de ses peintures. Il utilise aussi beaucoup de pochoirs sur des motifs qu'il répète, qui est un des motifs qu'il fait depuis plus de 30 ans, en faisant justement tout un jeu sur la couleur, la transparence, le motif et la relation entre la forme du fond et la forme que lui, il peint. Voilà.
C'est comme des empreintes, en fait. C'est comme s'il diffusait des empreintes sur, sur un grand format.
Par exemple, tout à fait. Et ça nous semblait être quelque chose qui peut être très bien en harmonie avec les décors polychromes, puisqu'on a parlé tout à l'heure des décors peints, qui sont très très présents dans cette église abbatiale. Et ça va être, je pense, un beau dialogue entre une peinture qui était complètement innovante et contemporaine au XIIIe siècle, et cette peinture contemporaine de Claude Viala.
Et innovante aujourd'hui.
Absolument.
On a vu donc tous les efforts entrepris pour la restauration de cet édifice par la ville d'Angers. Les travaux, bien sûr, sont loin d'être terminés. Y a-t-il des projets à très long terme pour terminer ce chantier ? Alors, je ne parle pas du tout de ceux que pourrait annoncer le futur maire pour son prochain mandat, mais je parle pour le milieu de notre siècle. Est-ce qu'on peut imaginer une affectation grandiose et définitive pour ce projet ? Est-ce que vous êtes lancé dans des investigations permettant, par exemple, la réouverture du cloître à la visite, la déambulation dans les tribunes dont nous avons parlé, qui offrent des lieux d'exposition important. On pourrait même, parce que c'est d'actualité, on en parle dans toute la France entière, imaginer la restitution de la flèche sur la tour, comme on l'a fait à Notre-Dame, comme on le fait actuellement encore à l'abbatiale de Saint-Denis. Est-ce qu'on peut imaginer la réappropriation de l'aile du chapitre, qui je crois n'est pas beaucoup utilisé par l'École des Arts et Métiers. Est-ce qu'une démarche intellectuelle, un projet pour le très long terme a été mené sur cet édifice pour lui rendre tout l'honneur qu'il mérite ?
Ça fait beaucoup de questions pour une seule personne. Hein.
Alors, je vais essayer d'être synthétique. Bien sûr, nous avons conduit des réflexions, nous pouvons à la fois réfléchir et rêver.
Il faut rêver, oui.
Donc, de toute façon, quand on parle d'une abbaye, on pense tout de suite à un cloître. Donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une abbaye sans un cloître. Comme vous le savez, et ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que la ville a fait l'acquisition de cette église en 1998, après de nombreuses activités qui ont déjà été conduites par la ville, puisque le Champ du Monde a été exposé dans l'abbaye en 1988, lorsque Pierre Prunet rénover l'hôpital Saint-Jean. Et d'ailleurs, dans la restauration, vous verrez que nous avons aménagé des portes vitrées entre le cloître et l'église pour que justement nous puissions apercevoir ce cloître. Pour le moment, le cloître et l'ensemble de tous les bâtiments conventuels relèvent de l'État et de la domanialité de l'État et sont aujourd'hui affectés à l'École des Arts et Métiers. Alors, comme vous dites qu'ils ne sont pas beaucoup occupés, alors peut-être qu'ils n'occupent pas beaucoup les salles qui entourent le cloître, bien qu'il y ait quand même de nombreux logements étudiants qui se trouvent au-dessus des arcades du cloître, partie occidentale, mais également au nord, puisque dans les anciens dortoirs ou cellules, ce sont maintenant des logements étudiants. Ils investissent complètement le cloître, puisqu'on les voit régulièrement conduire des travaux à l'intérieur. Donc oui, on peut imaginer que dans un long terme, on puisse découvrir au moins ce cloître. Après, au-delà de les espaces, je veux dire, de l'ensemble abbatial, il faudra que l'on voit aussi comment on pourra découvrir les peintures, par exemple des tribunes. Pour le moment, ce n'est pas possible puisque les peintures ne sont pas en très bon état. Elles ont besoin d'une intervention de restauration et de consolidation, puisque, comme vous le savez, les peintures murales, quand elles sont très anciennes, elles sont fragiles, donc le frottement d'un visiteur ne permet pas pour le moment d'être compatible avec de la visite, et puis il faudrait y conduire des accès, puisque les moniales, elles empruntaient un accès en vis de cette fameuse tour que vous évoquez, mais qui pour nous est très étroite et que je ne pense pas qu'elle soit compatible avec les normes des ERP, des établissements recevant du public aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on imagine aussi un projet architectural englobant donc des accès sans nuire à l'identité du site. Et puis aussi, il faudrait qu'on réfléchisse à comment les gens à mobilité réduite puissent aussi avoir accès. Donc vous voyez, c'est un projet quand même assez complexe, le lieu l'étant aussi, pour vraiment concilier, garder l'harmonie du lieu et en même temps pouvoir le dévoiler aux visiteurs. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment que nous réfléchissions posément avec des experts.
Alors, je dis juste pour terminer, chacun connaît peut-être les projets de la Visitation au Mans ou des Jacobins à Rennes. On souhaite qu'un jour, cet établissement puisse être honoré de la même manière.
Eh bien, on l'espère tous, que ce lieu soit un lieu dynamique et qu'il soit vivant et complètement approprié par les enjeux et les visiteurs.
Merci Stéphanie Vitargibia pour cette présentation. Merci à Dominique et à Isabelle. Je rappelle que l'ouverture de l'abbaye du Ronceret est prévue pour le mois de mai. En attendant, je vous invite bien entendu à aller voir l'exposition au Repère Urbain. L'abbaye du Ronceret, mémoire de femme, mémoire de pierre. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.